Mise au point. Le magazine des politiques publiques.
Bonjour à toutes et tous, nous accueillons aujourd'hui Guy Lebras, directeur général du GART, association qui agit en faveur du développement des transports publics et modes alternatifs à l'usage individuel de la voiture. Bonjour Guy Lebras.
Bonjour.
Alors Guy, nous parlons aujourd'hui avec vous de la LOM, la loi d'orientation sur les mobilités. Et ma première question sera donc, quelles étaient les attentes du GART vis-à-vis de la loi ?
Alors, la loi d'orientation des mobilités, c'est le résultat d'un très long processus qui a duré plusieurs mois de travail autour des assises de la mobilité. Mais avant ces assises de la mobilité, le GART avait organisé avec ses adhérents et avec d'autres parties prenantes telles que l'Union des transports publics, la Fédération nationale des transports de voyageurs, CDIE qui est un think tank autour des transports, Région de France et la Fédération nationale des usagers des transports, la FNOT, ce que l'on a appelé les états généraux de la mobilité durable, qui ont permis de faire remonter un certain nombre de mesures que nous pensions intéressantes pour mettre à jour en quelque sorte la loi d'orientation des transports intérieurs qui datait de 1982 et qui avait besoin d'être mise à jour. Donc on en a tiré 70 propositions pour la mobilité de tous les Français et bien évidemment le travail qui a été mise en place par la ministre Elisabeth Borne avec les assises de la mobilité nous a permis de donner un écho à ces propositions et bien évidemment d'aboutir à un texte avec au départ une centaine de propositions législatives qui a été ensuite soumis à toutes les arbitrages interministériels. Mais donc nous avions une attente très forte qui était de faire en sorte que le maximum de nos revendications, en quelque sorte, de mise à jour de la loi d'orientation des transports intérieurs, puissent, se retrouver dans la loi. Donc ça, c'était l'attente du groupement des autorités responsables de transport. Bien évidemment, la ministre, elle, avait des attentes un tout petit peu différentes, mais qui se sont trouvées être largement complémentaires.
Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples des préconisations que vous aviez faites à l'origine ?
Alors, on avait dans ces propositions, on en a retiré quelques-unes qui étaient tout à fait importantes. Par exemple, je vais vous en citer une qui est d'ailleurs tout à fait d'actualité aujourd'hui, qui est en fait la défense du versement transport, qui est une taxe un impôt qui est très important pour le financement des transports publics en France. D'ailleurs, ce versement transport a été élargi et transformé à l'intérieur de la loi d'orientation des mobilités, puisqu'il s'appelle maintenant le versement mobilité. Nous avions aussi demandé quelque chose que d'ailleurs nous n'avons pas obtenu, mais qui était très important pour nous et qui reste très important pour nous, qui était la redescente des taux de TVA, puisqu'aujourd'hui on a subi deux hausses de TVA, une sous Sarkozy et une autre sous Hollande, qui nous a amené la TVA appliquée au transport public en France à 10%, alors que dans la plupart des pays autour de nous, c'est le taux minimum qui est appliqué, c'est-à-dire des taux de 5%, voire moins, parfois zéro, comme c'est le cas par exemple en Grande-Bretagne. Nous avons aussi demandé, sur le plan des investissements, d'avoir un plan d'investissement sur 5 ans qui soit véritablement réfléchi et raisonné, de façon à ce que l'on continue d'investir dans le transport public qui est très important pour, la mobilité durable et puis pour faire en sorte de lutter contre le réchauffement climatique. On avait aussi demandé des aides et de soutenir les collectivités pour la transition énergétique. Voilà, enfin bon, ce sont quelques attentes effectivement très 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 importantes que nous avons cherché à confirmer dans le cadre, effectivement, de la loi d'orientation des mobilités.
Et alors, selon vous, qu'est-ce que la LOM apporte aujourd'hui dans son texte final aux AOM, aux autorités organisatrices de la mobilité ?
Alors, la loi d'orientation des mobilités, finalement, elle porte un nom qui prête un peu à confusion parce qu'elle s'appelle loi d'orientation. En général, les lois d'orientation, comme c'était le cas de la LOTI, sont des lois brèves qui fixent des grands principes. En vérité, la loi d'orientation des mobilités est plus une boîte à outils assez complète. Il y a quand même un grand nombre d'articles dans la loi. Il y a quand même 189 mesures, si je puis dire, qui sont dans le texte de loi. Et de ce point de vue-là, c'est plus une boîte à outils qu'une loi d'orientation fixant simplement des grands principes. On peut quand même néanmoins diviser cette loi en plusieurs parties. La première partie qui est très importante pour nous s'appelle, c'est la partie qui traite de la gouvernance. C'est une partie qui est complètement, si je puis dire, nouvelle, puisque une des ambitions de la ministre a été de faire en sorte qu'il n'y ait plus de trous dans la couverture du territoire par les autorités organisatrices de la mobilité, puisque vous savez que à peu près 70% de la surface du territoire représentant 30% de la population n'est couvert par aucune autorité organisatrice de la mobilité jusqu'à présent. Et donc la loi prévoit que les communautés de communes vont pouvoir prendre, et ça concerne 9000 communautés de communes, la compétence mobilité dans les mois qui viennent. Et si cette compétence n'est pas prise par la communauté de communes, ça sera les régions. Ça, c'est donc une mesure très importante. Il y a bien évidemment aussi des mesures de coopération entre les autorités organisatrices de la mobilité, avec la création du contrat opérationnel de mobilité et des bassins de mobilité. Ce sont des nouveautés, si je puis dire, qui sont tout à fait intéressantes. Et puis quelque chose qui était demandé par les entreprises depuis très longtemps, qui est le comité des partenaires, qui permet de mettre autour de la table toutes les parties prenantes, et notamment celles qui payent le versement mobilité, de façon à définir la politique de mobilité qui soit la plus efficace possible. Et ce comité des partenaires est une nouveauté. Il y a aussi évidemment des mesures concernant la mobilité inclusive. Il y a des mesures très importantes sur l'ouverture de données. Ça, c'était aussi quelque chose de tout à fait important pour nous, puisque il est déterminé que les données sont ouvertes, donc elles vont pouvoir être réutilisées pour de nouveaux services. Et que il y a de nouveaux canaux de distribution aussi qui sont ouverts, mais jamais de rupture de la relation entre l'autorité organisatrice de la mobilité et le voyageur. Ça, c'est quelque chose de tout à fait important. Il y a aussi un plan sur les mobilités actives extrêmement dynamique, appelé le plan vélo, qui permet, si je peux dire, de développer l'usage du vélo. Et on sait que dans notre pays, on a un certain retard par rapport à ça, puisqu'on est plutôt à 3% de part modale du vélo, là où les pays européens en moyenne sont plutôt à 13%. Il y a aussi quelques mesures qui concernent principalement l'automobile sur la transition énergétique. Il y a d'autres mesures, ça c'est un petit fourre-tout. Et puis enfin, je l'ai mis un petit peu à part, mais je trouve que c'est quand même quasiment au début de la loi, puisque c'est dans les premiers articles de la loi. Il y a le plan d'investissement qui est fixé sur une durée de 5 ans à environ 2,7 milliards d'euros par an, donc qui sont apportés à l'Agence française de financement des infrastructures de transport, la FIT, et qui permet d'apporter de nouveaux financements pour des infrastructures de transport, notamment au travers d'appels à projets. Il est d'ailleurs prévu cette année, normalement, un quatrième appel à projet aurait dû être lancé, mais évidemment la crise du coronavirus a un petit peu remis cela en question pour le moment. Voilà donc la structure de cette loi. Donc on voit qu'il y a énormément de mesures, et donc c'est une loi qui est complexe, mais qui apporte de véritables nouveautés, même si sur un certain nombre de sujets, nous aurions souhaité qu'elle aille plus loin, et nous n'avons pas forcément été entendus sur toutes nos demandes par le gouvernement et le Parlement.
Alors justement, donc là vous portez finalement un regard globalement positif hein, sur la LOM. Est-ce qu'il y a néanmoins, selon vous, des questions qui restent en suspens? Peut-être qu'on peut parler de la question des financements.
Oui, alors évidemment sur le plan du financement, à partir du moment où on souhaite qu'il y ait de nouvelles autorités organisatrices de la mobilité, à partir du moment où on dit que les régions deviennent des autorités organisatrices de la mobilité, il nous paraissait important que toutes les autorités organisatrices de la mobilité aient accès au même panel de financement. Et donc, de ce point de vue-là, nous avons souhaité l'élargissement du versement mobilité. C'est une mesure qui avait été comprise et introduite par les sénateurs avec la création d'un versement de mobilité à 0,3% pour les communautés de communes. Nous aurions d'ailleurs même souhaité qu'il soit étendu aux régions. Mais en fait, ça n'a pas été suivi à l'Assemblée nationale et donc cette mesure n'a pas été prise. Il faut considérer que le gouvernement ne souhaitait pas effectivement qu'il y ait élargissement du versement mobilité vu que cet impôt est sujet à de nombreuses critiques, notamment de la part d'organisations patronales telles que le MEDEF. Donc de ce point de vue-là, nous n'avons pas été suivis et donc effectivement, on va proposer à de nouvelles collectivités territoriales de prendre des nouvelles compétences, mais sans apporter le financement qui va avec. Alors, normalement, le gouvernement doit prévoir dans les PLF futurs des instruments de financement pour ces collectivités, mais pour le moment, on n'a pas beaucoup de visibilité sur la question. Donc effectivement, sur le plan des ressources, on n'est pas tout à fait satisfait de ce qui a été rédigé dans la loi d'orientation des mobilités.
Alors, pour poursuivre et conclure cette interview, il est nécessaire de parler de la situation que nous vivons actuellement, qui va avoir un impact notamment financier pour les collectivités et les opérateurs de transport, et un impact également sur les pratiques et les envies de mobilité des citoyens. Alors, selon vous, quels vont être les impacts de la crise sur les mobilités des Français et sur la mise en œuvre de la LOM ?
Alors, l'impact de la crise, il est profond, il est durable, et je dirais que si peut-être la crise sanitaire, Dieu merci, on l'espère, est peut-être un peu derrière nous, la crise économique et la crise du transport public, elle est encore devant nous. Il faut quand même comprendre que le 17 mars, du jour au lendemain, brutalement, les transports sont tombés à 30% de l'offre et à moins de 10% de la fréquentation. Donc, de ce point de vue-là, même dans certaines villes, les réseaux de transport public ont été complètement arrêtés. Donc de ce point de vue-là, on a eu un choc très puissant, mais il faut remarquer quand même que la résilience du système est telle que dans cette crise, les transports ne se sont jamais complètement arrêtés. Et donc cette offre de 30% a été maintenue pendant tout le confinement. Aujourd'hui, on est dans une situation de déconfinement. Et ce que l'on constate dans les pays qui ont déconfiné avant nous, c'est qu'on va mettre un certain nombre de mois avant de récupérer une fréquentation qui sera conforme à ce qu'elle était antérieurement. Pourquoi ? Parce que, bien évidemment, les mesures de distanciation, et c'est important, restent en vigueur à l'intérieur des transports publics. Et aujourd'hui, avec le décret tel qu'il était sorti au 11 mai dernier, le décret de déconfinement, on pouvait guère dépasser 30% de fréquentation. Avec la nouvelle version qui est parue hier matin de ce décret, on devrait pouvoir remonter jusqu'à 50%, mais on va durablement avoir un décrochage entre la capacité théorique, je dirais, d'emport en nombre de voyageurs des transports publics et leur fréquentation. Donc ça veut dire que, évidemment, les recettes ne vont remonter que de manière très progressive. On constate d'ailleurs que dans les pays qui ont déconfiné avant nous, on a assez durablement un chiffre de fréquentation maximum, même avec une offre qui est proche de 100%, ce qui est le cas d'ailleurs aujourd'hui, une fréquentation qui monte à un maximum de 60%. Pour mémoire, et peut-être que les plus anciens s'en souviendront, mais quand il y a eu les attentats à Paris dans les années 90, et c'était des attentats, donc il y a eu des morts, c'était des choses qui ont là aussi un traumatisme très violent. La fréquentation a retrouvé sa valeur antérieure 2 ans seulement après la fin de ces attentats. Donc de ce point de vue-là, on voit bien que ça va être quelque chose, une crise assez durable, et tout l'enjeu évidemment va être de passer ce gap financier, puisque comme le GART l'a écrit très récemment dans un courrier au président de la République, nous évaluons le manque à gagner entre le versement mobilité et la baisse des recettes de l'ordre de 4 milliards d'euros pour l'ensemble du territoire et pour l'ensemble des autorités organisatrices de la mobilité en France pour l'année 2020 seulement. Donc, bien évidemment, si le gouvernement ne vient pas compenser cette perte de recettes en totalité ou en partie, bien évidemment, il y aura de très très grosses difficultés pour les autorités organisatrices de la mobilité dans les mois qui viennent.
Et est-ce qu'il faut du coup s'attendre à ce que certains réseaux périclites s'arrêtent complètement et comment est-ce qu'on pourrait réagir face à une telle situation ?
Alors, moi je ne fais pas jamais la politique du pire et je ne pense pas que les réseaux soient amenés à s'arrêter, mais si on ne fait rien, C'est ce qui pourrait se passer. Aujourd'hui, une autorité organisatrice comme Île-de-France Mobilité, la plus grosse autorité organisatrice française, ne dispose de quoi payer ses opérateurs que jusqu'à début juillet. Et après la fin août, il pourrait ne plus avoir du tout d'argent pour payer les opérateurs si une compensation n'était pas apportée par l'État. Aujourd'hui, l'évaluation par Île-de-France Mobilité de son trou en recettes de versement mobilité et tarifaire est de l'ordre de 2,7 milliards d'euros. Donc on voit que c'est quand même quelque chose, une somme très importante qui ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval. Et bien évidemment, le gouvernement est interpellé, si je puis dire, sur la compensation de ce manque à gagner. Bien évidemment, la priorité, c'est la compensation du versement mobilité, puisque cette compensation vient compenser une chute qui est le résultat de la décision du gouvernement, qui est la décision de confinement, même si c'est une décision qu'il s'imposait à lui, donc il n'y a aucune responsabilité des autorités organisatrices de la mobilité. Et donc nous réclamons la compensation à 100% de ce versement mobilité. Et les premières discussions que nous avons avec le gouvernement sont plutôt positives sur ce sujet-là. Et puis sur la compensation des recettes, alors là, il va falloir faire une comptabilité extrêmement précise de ce que les opérateurs ont économisé, puisque quand ils ont eu un service très diminué et ils étaient à 30% de l'offre, ben ils ont évidemment eu des frais en moins, ils ont aussi bénéficié des mesures de chômage partiel, donc ils ont eu des charges en moins, mais ils ont aussi eu des charges supplémentaires pour les mesures barrières, pour fournir des masques à leurs conducteurs, pour tout ce qui leur a compliqué, si je puis dire, l'exploitation normale des réseaux. Donc il faut faire la comptabilité des plus et des moins, et ensuite évidemment de voir qu'est-ce qu'il en reste, si je puis dire, en termes de chute de recettes, pour là aussi effectivement mettre ça dans la balance avec le gouvernement. Très clairement, si rien ne se faisait, des réseaux pourraient s'arrêter, mais je n'ai pas le sentiment qu'il ne va rien se passer. Et donc de ce point de vue-là, nous sommes confiants pour qu'effectivement les bonnes mesures soient prises et que les réseaux puissent continuer à fonctionner jusqu'à la fin de cette année.
Merci beaucoup Guy Dauraz. Je rappelle que vous êtes directeur général du GART.
Merci beaucoup.
Quant à vous, chers auditeurs, je vous dis à bientôt pour une prochaine émission.
Mise au point. Le magazine des politiques publiques.